Merci à l'équipe de louange pour ses cœurs. C'est bon de vous voir et de vous entendre et de nous entendre louer Dieu ensemble. Amen. Vraiment, je suis béni d'être ici ce matin et je veux que vous sachiez que tous, vous êtes importants. Vous êtes tous importants. Puis à chaque fois que je viens, je suis toujours touché parce qu'il y a des gens qui sont consacrés ici, hein? Qui donnent leur cœur, sont fidèles, ils travaillent, sont présents. Vous êtes des serviteurs de Dieu. Amen. C'est encourageant. Merci Seigneur pour ça. Puis là, je ne sais pas, continuons à servir le Seigneur. Et ce matin, vraiment, je pense que je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Mais je vais probablement vous parler de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais cette personne-là, le plus qu'on la connaît, le plus que nos racines s'approfondissent. Et ce que j'ai remarqué dans ma vie chrétienne est comme un arbre, je dirais, la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est pas ses feuilles, c'est pas son apparence, c'est ses racines. Parce que les racines, c'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous tient ancrés dans le sol, c'est ça qui nous tient quand que le vent souffle, et c'est ça qui fait qu'on perdure dans le temps. Allez voir un beau gros chêne. Les racines sont profondes. Elles sont ancrées. Malgré la grosse tempête, les racines sont là. Puis ça le tient. Et la chose la plus importante qu'on doit développer comme enfant de Dieu, c'est nos racines. Et notre vraie racine, c'est Jésus-Christ. C'est sa parole. Et parlant de Jésus-Christ ce matin, on va lire ensemble dans ce texte de Matthieu 16, 13, et suivant, si vous voulez tourner dans vos Bibles ou suivre à l'écran. Et le titre de ce message ce matin, c'est « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et vous, qui dites-vous que je suis? Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis? » Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » On va lire également dans Jean 3, 16 à 18, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Seigneur, on te remercie pour ta parole, une parole qui est ointe, qui est pénétrante, qui est vivante, qui est tranchante, qui sonde nos cœurs, qui nous encourage, nous fortifie, nous relève. Je te prie que tu la bénisses et qu'on puisse s'en abreuver ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et tous on dit Amen. Amen. Le verset Jean 3, 16, ça nous montre clairement que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'humanité, puis cette humanité-là possède évidemment un libre arbitre, une libre volonté. Dieu a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui, met sa confiance en lui, reçoive la vie éternelle avec lui. Et celui qui met sa confiance en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne met pas sa confiance en lui sera condamné et passera l'éternité loin de la présence de Dieu, loin de lui. Et parfois, les gens trouvent ça difficile. Tu veux dire que Dieu va envoyer des gens en enfer? Non. Dieu va respecter les gens qui ont décidé de vivre séparés de lui. Il va respecter leur choix. Celui, évidemment, c'est Jésus. Et afin de croire en lui, afin de mettre notre confiance en lui, il est important pour chacun de nous de bien comprendre c'est qui rentre. Puisque vous regardez tout cela. Je vous vois, moi, d'ici, là. De bien comprendre, évidemment, qui est celui. Mettre sa confiance en lui, recevoir la vie éternelle avec lui, mais il faut bien comprendre, c'est qui celui. Celui, c'est Jésus. Et lui, il est important qu'on comprenne qui est celui que nous devons mettre notre confiance. Car si nous mettons notre confiance en un autre petit lui, plutôt que le lui auquel fait référence l'Évangile de Jean, on est dans le trouble. Ça fait beaucoup de lui, hein? Ben voyons, Dany, c'est bien simple. Celui auquel fait référence Jean et Matthieu, c'est Jésus. Oui, mais quel Jésus? Au temps de Jésus, plusieurs ont fréquenté Jésus et croyaient le connaître. Pourtant, quand Jésus a posé la question à ses disciples à propos de leur connaissance de Jésus, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. Les autres que tu es Jérémie, que tu es un prophète. » Leur connaissance de Jésus, pour plusieurs, était superficielle. C'était une connaissance de réputation. Et à cause de ça, leur connaissance de Jésus n'était pas suffisante pour leur permettre de suivre Jésus jusqu'au bout. C'est pour ça qu'on lit dans Jean 6, 66, Jean 6, 66, et ne faites pas allusion à 6, 6, 6, là, ça n'a pas rapport, là. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Vous voyez, ses disciples qui le quittèrent croyaient à Jésus pour ce qu'il a fait, mais ils ne croyaient pas en Jésus pour ce qu'il était, pour ce qu'il est, fils de Dieu. Sauveur. C'est quoi la différence, me demandez-vous? Un jour, un funambule, c'est quelqu'un qui marche sur des cordes, était au-dessus des chutes Niagara, et peut-être vous l'avez déjà entendu, il avait une brouette, et il a dit, « Crois-tu que je peux te mettre dans cette brouette et marcher sur ce fil et traverser les chutes Niagara? » L'homme de répondre, « Oui, je te crois. » Et l'autre de répondre, « Embarque dans la brouette. » Et cet homme fit comme les disciples qui croyaient à Jésus et non pas en Jésus, il quitta le lieu. Vous voyez, à cette époque, la foule suivait Jésus et croyait à Jésus. Mais quand Jésus leur a parlé de sang, de mort à soi, de sa mort sacrificielle. Aussitôt qu'il leur parlait de croire, pas juste à lui, mais en lui, en son œuvre, après que Jésus a déclaré « Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi et je demeure en lui », alors plusieurs l'ont quitté parce que là, ça leur coûtait quelque chose. Leur croyance à lui, leur connaissance de lui était insuffisante pour demeurer jusqu'au bout, parce qu'ils ont pris Jésus pour quelqu'un qu'il n'était pas. Jésus n'était pas Jean-Baptiste. Jésus n'était pas Élie. Jésus n'était pas Jérémie, ni un prophète. Et Jésus ne doit pas être un personnage selon notre propre conception, un Dieu qui s'adapte à nous, à notre époque, à notre culture, à la mode, à la loi du pays. On doit être libéré de notre péché, transformé à sa ressemblance, et non pas transformer Dieu à notre ressemblance, à ce qui nous plaît, à ce qui fait notre affaire. Jésus, c'est une nourriture puis un breuvage spirituel qui désire que l'on croit non pas à lui, mais en lui, que l'on demeure en lui et que lui demeure en nous et que lui croisse et que je diminue, nous transforme, nous change, nous sanctifie, qu'on devienne comme lui et non pas lui comme nous. Plusieurs croient à lui. En fait, même les démons croient à lui. Mais beaucoup refusent de devenir comme lui, mais désirent que lui devienne comme eux. Et là, on se façonne un Jésus à notre ressemblance, à notre image. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un Jésus pour les enfants, on a un Jésus pour les milléniaux, on a un Jésus pour les bébés boomers, on a un Jésus pour les visiteurs, on a un Jésus pour ceci, on a un Jésus pour cela, un Jésus pour les whatever, un Jésus pour l'alphabet, les deux SLBGTQ+. Moi, j'appelle ça l'alphabet. C'est l'apôtre Paul qui nous avertit en nous disant, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Il y a un seul Jésus. » Et notre désir individuel et collectif doit être de le connaître lui, de vouloir devenir comme lui, de ressembler à lui, de mourir à nous-mêmes afin que lui puisse vivre en nous, d'être en lui et lui en nous, de devenir comme lui, peu importe le prix. Il y a juste un vrai Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Voyez, la majorité des Canadiens le connaissent qu'en rapport à ses fonctions religieuses, comme un personnage historique, mais peu d'entre eux ou parmi les Canadiens le connaissent pour qui il est vraiment. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est ce qu'il est, et rien de moins. Et malheureusement, dans notre société, pour de plus en plus de personnes, même dans nos églises, Jésus est connu pour ses fonctions religieuses. Mais peu le connaissent pour qui il est vraiment. Dieu Tout-Puissant, qui veut régner sur nos vies, nous transformer à sa ressemblance. Et de ne pas connaître ou de mal connaître un individu quelconque dans la société, ça a peu d'impact sur notre vie, mais de peu connaître ou de mal connaître Jésus-Christ, ça a un impact terrible ou glorieux sur notre éternité. Car la question la plus importante à laquelle nous devons répondre, c'est celle-ci. Où seras-tu pour l'éternité? Jeune homme, jeune fille, c'est important de savoir qu'est-ce que tu dois choisir comme carrière. C'est important de connaître la volonté de Dieu pour savoir qui tu dois marier, qui tu dois avoir comme époux et comme épouse. Ça va avoir un grand impact sur ta vie terrestre. Mais la question la plus importante, c'est de savoir qui est Jésus-Christ. Et où serai-je pour l'éternité? Et toi, qui dis-tu que je suis? Car la réponse à cette question détermine notre avenir sur terre, le genre de vie qu'on va mener, notre capacité de penser à travers les épreuves et va déterminer également notre vie, notre destinée éternelle. Et la réponse à cette question déterminera si l'un passera l'éternité dans la présence de Dieu ou s'il sera exclu éternellement de la présence de Dieu. Parce que oui, après cette vie, il y aura un jugement. Il va y avoir une justice qui va être exercée. Et oui, lors de ce jugement, malheureusement et heureusement, selon de côté qu'on se tient, plusieurs entendront de la bouche du Dieu Tout-Puissant, « Viens dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Et moi, je veux vivre ma vie afin d'entendre ces paroles. Viens dans ma présence, bon et fidèle serviteur. » Et d'autres, malheureusement, entendront les paroles les plus horribles que l'oreille d'un homme ou d'une femme n'aura jamais entendues. « Loin de moi, car je n'étais point connu. » Trop tard. Trop tard. C'est pourquoi la question posée à Pierre et aux apôtres est pertinente encore aujourd'hui, en 2024. Elle est d'autant plus pertinente que Paul, dans son épître aux Corinthiens, nous indique clairement que certains super apôtres de l'époque qui dénigraient Paul, ils prêchaient, eux, un autre Jésus, un autre évangile. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, nous dit-il dans 2 Corinthiens, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, selon ce verset, il y a plusieurs Jésus, il y a plusieurs évangiles. Et si on veut éviter de se faire séduire par un faux Jésus ou par une fausse évangile, on doit étudier le vrai Jésus, puis le vrai évangile. Il est donc pertinent, et pour nous, personnellement, de répondre à cette question, « Et moi, et toi, qui dis-tu que je suis ?» Qui dis-tu que je suis? Et là, c'est sûr qu'on pourrait passer plusieurs heures à parler des faux Jésus, des faux évangiles. On pourrait parler du faux Jésus de la religion de nos ancêtres, qui le présente comme un petit bébé dans une crèche à Noël ou sur un crucifix. On pourrait parler du faux Jésus de ceux qui le voient comme un être créé, comme juste un homme, un bon enseignant, un prophète, alors qu'il est créateur de tout. On pourrait vous parler du faux Jésus de l'Évangile de prospérité, prêché par certaines personnes multimillionnaires, alors que lui est venu, le vrai Jésus, dépouillé de toute sa gloire, s'humilier, prendre la forme d'un être humain qu'il a lui-même créé, vivant une vie humble de serviteur, alors qu'il est le roi des rois. Je pourrais vous parler du Jésus des réveils, qui fait courir des milliers de gens d'une ville à l'autre pour faire le bacon, pour faire toutes sortes de foleries, des poudres d'or, des cris de loup. Ça ressemble plus à des sessions de Kundalini qu'à des manifestations de l'Esprit de Dieu. Je pourrais vous parler du Jésus, du mouvement Hyper Faith, qui enseigne que si tu as assez de foi, il va t'arriver aucun malheur. Ta vie, ça va être un tapis de roses, aucune épine, que de l'huile, si on a assez de foi. Alors que le vrai Évangile nous enseigne que nous aurons des combats. Si tu as des combats, ce n'est pas parce que tu manques de foi. On va avoir des batailles. Et que ce n'est pas nous ou notre foi qui règne sur ce monde, mais c'est que Dieu lui-même règne sur ce monde. Et que notre désir le plus grand, notre prière la plus profonde doit être toujours qu'il en soit fait selon ta volonté, parce que Dieu, tu es en contrôle de tout. Le Jésus de la Bible, le Jésus de la parole de Dieu, le Jésus qui se dévoile par le Saint-Esprit à la lecture du Saint-Livre, c'est lui que nous devons rechercher. Et pour ce faire, il n'y a rien de mieux que de consulter l'Évangile de Jean pour comprendre qui est ce Jésus. Pourquoi? Parce que bien que l'Évangile de Matthieu, Marc et Luc nous parlent abondamment de Jésus, ils passent beaucoup plus de temps à nous révéler ce qu'il a fait, des miracles qu'il a fait. Mais Jean nous parle de qui est Jésus. Il nous apprend à aimer Jésus, non pas seulement pour ce qu'il fait, mais également pour qui il est. Est-ce que vous aimez ça quand les gens vous aiment juste parce que, à cause de ce que vous faites? Ou est-ce que vous préférez que les gens vous aiment pour qui ce que vous êtes? Moi, je préfère que les gens m'aiment pour qui je suis. Puis moi, je ne suis pas Jésus, évidemment, puis des fois, je fais des conneries, mais je sais que les gens m'aiment pareil à cause de qui je suis et non pas à cause de ce que je fais seulement. Et Jean nous fait cela. Il nous révèle qui est Jésus, non pas seulement ce qu'il a fait, mais qui il est. On va le lire ensemble dans Jean 1 et on va prendre le temps de le lire. Jean 1, 1 et suivant. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été créée ou faite par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole, évidemment ici on parle de Jésus, était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme et toute femme aussi. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, pas à son nom, mais en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean débute son évangile de la même manière que Moïse a débuté le livre de la Genèse avec les mots « au commencement ». Et ici, évidemment, puisque Dieu n'a pas de commencement, Jean, comme Moïse, ne nous parle pas du commencement de Dieu, mais du moment où Dieu, par sa parole, a créé l'espace, la matière, le temps, et c'est à partir de cette matière et dans ce nouvel espace que Dieu nous a créé à son image. Il nous a insufflé son esprit par cette parole. Du même coup, Jean nous apprend que Jésus, c'est la parole. Tout comme les mots qui sortent de notre bouche expriment ce qu'il y a dans notre cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. De même, Jésus, la parole, révèle le cœur et la pensée de Dieu à l'homme. Puis une parole, c'est composé de lettres. Et Jésus est la première lettre de Dieu, l'alpha, et la dernière lettre de Dieu, l'oméga. La création de Dieu reflète la gloire de Dieu dans son ingéniosité, dans sa diversité, dans son excellence, dans sa complémentarité, dans ses soucis du détail. Jésus, la parole vivante qui a été issue du sein de Dieu, reflète la pureté de Dieu, la sainteté de Dieu par une vie pure, sans tache. Sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa compassion, son souci pour les plus faibles, les plus démunis, son écoute, sa grande patience, son grand amour pour nous en payant le prix à notre place. Cette même parole, elle était là au commencement, puis elle s'est incarnée en Jésus, puis elle est disponible encore pour nous. Et c'est vrai que Jésus peut avec nous, mais la parole est à notre disposition et par la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on lit cette parole, c'est Jésus qui nous accompagne, c'est Jésus qui nous parle. La Bible, la parole de Dieu, c'est Jésus qui nous parle. C'est lui qui nous apporte cette lumière, cette eau vive, cette source de réconfort, de guérison, de force créatrice, de nourriture pour notre âme. Passer du temps avec la parole, c'est passer du temps avec Jésus. Étudier la parole, c'est apprendre à connaître Jésus. Obéir à la parole, c'est obéir à Jésus. Jésus parle. Par sa parole, il conseille, il dirige, par sa parole. Et si l'on veut que Jésus nous parle, on doit lire sa parole. Parole infaillible, autorité suprême en matière de foi, épée tranchante. Tranchante, parce qu'en fait, quand on lit la parole, ce n'est pas nous qui lisons la parole, c'est la parole qui nous lit. Et cette parole, elle nous lit et elle nous révèle ce que l'on doit céder à Christ afin qu'il puisse nous transformer. C'est la parole qui nous réconforte. C'est la parole, le standard de moralité. Et non pas mon voisin. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras, nous dit le Proverbe 4:4. Écoute, mon fils, reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Proverbe 4:10. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Et combien aujourd'hui dans notre société nous avons besoin de lire quelque chose où il n'y a rien de faux, où tout est vrai, où on peut mettre notre confiance, où on ne va pas être trompé. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je fais de tes statuts mes délices. Je n'oublie point ta parole, nous dit le psaume 119:16. Pourquoi? Parce que Jésus est parole vivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Deuxièmement, Jésus est la parole, et deuxièmement, il est également la vie. En elle était la vie. Vous savez, notre humanité aujourd'hui dépense des milliards à la conquête des planètes, espérant y trouver de l'eau pour voir s'il n'y aurait pas source de vie en quelque part. Mais ce matin, on peut y trouver de la vie, une vie nouvelle en Jésus-Christ, une vie éternelle en Jésus-Christ, parce que lui, il est cette eau vivante qui restaure notre âme, et gratuitement en plus. Ésaïe déclare, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans argent, sans rien payer, gratos, free, gratis. » Et cette source d'eau vive, de qui provient toute forme de vie, c'est Jésus. C'est pourquoi la vie est à la fois complexe, belle, diversifiée. Elle prend une diversité de formes. En plus de nous donner la vie, il a tout mis à notre disposition pour qu'on puisse s'épanouir et avancer comme société. Moi, des fois, je pense trop. Puis je me dis, Jésus, dans le fond, t'es tellement bon parce que t'aurais pu me créer sans le toucher, sans le goût, sans l'odorat, sans la vision, sans l'ouïe, sans la possibilité de progresser comme société. Est-ce qu'on réalise ce matin l'abondance de la richesse que nous avons sur cette planète-là? Réalisons-nous la bonté de Dieu pour nous dans sa création? Il aurait pu nous faire une boule roulante, sans émotion, sans goût, sans toucher. Il aurait pu faire en sorte que le céleri goûte la tomate, puis que la tomate goûte la céleri, puis que, ou bien non, que tout goûte la même affaire. Est-ce que vous êtes rempli de gratitude envers la bonté de Dieu pour l'eau vive qu'il est, pour la diversité de la création? Est-ce que vous rendrez gloire à Dieu pour la diversité des goûts qu'on a, de ce qu'on touche, ce qu'on voit? Est-ce que je pense trop, pensez-vous? Est-ce que je devrais arrêter de penser? Mais encore plus merveilleux, il nous donne la possibilité d'expérimenter sa vie en nous. L'éternité commence le jour de notre nouvelle naissance. Et si on demeure en lui jusqu'à la fin, nous pourrons passer l'éternité avec lui. 1 Jean 5, 11 et 12 nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Et moi, j'ai reçu cette vie en 1987. Et parce que j'ai reçu cette vie, ma vie sur terre a pris un sens. Jamais je ne me sens seul. Toujours il est avec moi et rien dans ce monde ne saurait le remplacer. Malgré les tempêtes, malgré les maladies, malgré les épreuves, Jésus-Christ m'accompagne jour après jour, après jour, après jour et jamais je ne suis seul. Et lorsque je quitterai cette enveloppe charnelle, j'ai l'assurance à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ que j'entrerai dans la félicité éternelle. Je vais rentrer à la maison. Combien sont déjà partis pour un voyage, 3 semaines, 1 mois? Tu rentres à la maison. Ah! Nous serons avec lui sur cette nouvelle terre. J'aurai toute l'éternité pour faire tout ce que je n'aurais pas eu le temps de faire sur cette terre. Si tu as reçu Jésus dans ton cœur, ce n'est pas vrai qu'il faut que tu profites de la vie au maximum parce que la vie est courte. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Puis il faut que tu saches que ta vie n'aura jamais de fin. Ta vie n'aura jamais de fin. Vous n'avez pas l'air convaincu. Ma vie n'aura jamais de fin. Quand on se regarde, des fois, on se dit, ma vie est moins longue qu'elle était. Puis là, on se compte une menterie. Il y en a plus en arrière qu'en avant. C'est faux! Il y en a plus en avant qu'en arrière. Et vous savez quoi? Celle en avant is much better. Celle en avant is much better. Troisièmement, en plus d'être eau vive, Jésus-Christ est lumière. Jésus-Christ est lumière. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et si Jésus est la parole, il est normal que lorsque la parole a été annoncée, la lumière a jailli, parce qu'aucune ténèbre ne peut résister à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsqu'on se sent attaqué par les puissances des ténèbres, il est le temps d'utiliser la parole de Dieu, parce que la lumière de la parole fait fuir les forces des ténèbres. Il est également normal que la lumière fût la première chose ordonnée de l'Éternel, parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans lumière, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui croît. Et tout comme la végétation a besoin de soleil pour vivre et croître, nous avons besoin de la lumière de Christ pour vivre et pour croître spirituellement. Et cette lumière, en venant dans le monde, éclaire tout homme, elle éclaire notre péché afin qu'on puisse se repentir et venir à lui, à la repentance, et chasser la noirceur de nos vies, chasser notre péché et recevoir sa lumière. C'est pour ça que le psalmiste a dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Et si vous connaissez les lampes de l'époque, elles éclairaient, c'était comme une chaîne avec une chose d'huile dedans, ils mettaient ça à leurs pieds, ça leur empêchait de s'enfarcher dans les racines, dans les roches. Ils voyaient clair. Et lorsqu'on reçoit la lumière de Christ pour notre vie, jeune homme, jeune fille, moins jeune homme, moins jeune fille, moins jeune femme, il nous empêche de prendre des mauvais sentiers. Quand j'élevais mes enfants, je leur disais toujours, « L'entrée du sentier est toujours remplie de fleurs, mais le danger est dans le sentier et surtout où il mène. » Jamais un mauvais sentier a une entrée laide. Les sentiers du diable sont toujours avec une entrée intéressante, accueillante, invitante. Mais lorsqu'on y pénètre, on commence à y voir les racines, les épines et surtout le précipice où il nous mène. Alors que les voies de Dieu, parfois, sont un petit peu plus difficiles, mais ils nous mènent toujours vers le meilleur pour nous. Jésus, c'est lui la lumière que les nouvelles âges recherchent. Ceux qui sont dans le nouvel âge recherchent la lumière. Bien, cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Et il peut offrir une lumière éternelle, énergisée à tout jamais par son esprit éternel, car le prince des ténèbres a failli dans sa mission d'éteindre la lumière à la croix. Oh, il pensait qu'il l'avait, là. Oh, il pensait qu'il l'avait déteindue, là. Écoute, il l'avait, là. Il l'avait, là. Même le soleil. Si la source de la lumière, Jésus-Christ, s'éteint, le soleil ne peut être là parce que le soleil, sa lumière dépend de la lumière éternelle qui est Jésus-Christ. Elle s'est affaissée pendant 3 heures. Et là, l'ennemi pensait qu'il avait vaincu cette lumière éternelle. Mais 3 jours plus tard, cette lumière a rejailli. Et si elle est dans votre cœur, cette lumière, jamais vous ne verrez les ténèbres éternelles. Jésus et lumière. Jésus est également éternel et c'est pour ça qu'il peut nous offrir la vie éternelle. Jean-Baptiste lui a rendu ce témoignage. C'est celui, on a lu ça, dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. En fait, sa naissance représente sa venue du ciel sur la terre, mais il était préexistant. Il est le Fils donné par Dieu. Et ce Fils donné par Dieu, cette expression-là, envoyé par le Père, se retrouve 34 fois dans Jean. Donc, il est indéniable de dire que Jésus est éternel, préexistant, qu'il est venu du ciel sur la terre pour nous. Jésus est également le Créateur. C'est par sa parole que Jésus, étant la parole incarnée, que Dieu a tout créé. C'est lui qui a créé toutes choses, Toutes choses ont été faites par elle, nous dit le texte qu'on a lu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 10 qu'on a lu, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Et Paul nous confirme ça aussi dans Colossiens 1, 16 et 17, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été fait créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et si nous voulons subsister, nous devons demeurer en lui, ici-bas sur cette terre et éternellement avec lui dans sa présence. Si toute chose, je vais vous faire un petit jeu de mots, là. Si toute chose subsiste en lui, toute chose qui demeure en dehors de lui meurt. Celui qui demeure ne meurt pas. Celui qui ne demeure pas meurt. Fait-il assez de meurt pour vous? Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Septièmement, Jésus est tout-puissant. La toute-puissance divine appartient à Jésus-Christ. Elle fait partie de sa nature même et cette toute-puissance se manifeste dans l'Évangile de Jean par plusieurs miracles. Et on pourrait passer l'après-midi là-dessus. Merci Seigneur que tu ne le feras pas, Danny, parce qu'il y a un barbecue qui nous attend. Mais pour vous en donner quelques-unes, à la noce de Cana, en changeant l'eau en vin, Jésus nous a démontré sa toute-puissance sur la matière. Lorsqu'il a guéri le fils de l'officier, Jésus est plus puissant que la maladie. La guérison du paralytique de Bethsaida, il avait 38 ans, il était incurable. Ça nous démontre que Jésus est le champion des causes désespérées. La multiplication des pains nous démontre sa capacité à pourvoir à nos besoins. Il marche sur les eaux pour nous démontrer sa domination sur les éléments. La guérison de l'aveugle-né nous montre qu'il est la lumière, qu'il fait recouvrir la vue à l'aveugle. Et il a démontré sa toute-puissance créatrice et miraculeuse. Et en ressuscitant Lazare, il a démontré sa toute-puissance sur la mort et sa capacité de ressusciter un corps. Par ses miracles, Jésus nous démontre sa divinité. Il est le sauveur de tous ceux qui le reçoivent par la foi. Finalement, c'est ça. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et non pas à son nom, en son nom. Dites-le avec moi, en son nom. En son nom. Vous voyez, hein? À en. Pas une grosse différence. Grosse différence. Pas une grosse différence, mais une grosse différence. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et cette transformation-là d'enfant de la chair en enfant de Dieu ne peut être produite par rien d'autre ni personne d'autre que le Saint-Esprit. On ne peut pas craquer quelqu'un à naître de nouveau. Il y a des gens, des fois, ils craquent les gens à naître de nouveau. En ouais, fais la prière. En ouais, fais la prière. Craque. Non, aucun homme, ni du sang, ni de la chair, mais de l'Esprit de Dieu. Et notre seul rôle à nous, c'est de présenter l'Évangile, le plan du salut. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire que cette personne naisse de nouveau. Et combien disent « Amen » à tout cela? Et vous, qui dites-vous que je suis? Basé sur les Écritures et non pas sur ma propre conception, je vous le dis ce matin. Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la lumière. Jésus est Fils de Dieu. Jésus est l'Éternel. Jésus est le Créateur. Jésus est le Tout-Puissant. Il est le Sauveur. Que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre individuellement et collectivement à croire en ce Jésus, le Jésus de la Bible, et non pas le Jésus selon ma propre conception ou selon la conception d'un tel ou tel prédicateur, mais selon qu'il est révélé dans la parole de Dieu. Car c'est en élevant le Jésus de la Bible que Jésus attirera à lui un monde qui a tellement besoin de le découvrir vraiment pour qui il est. Tous les autres Jésus, avec un petit J, ne font que faire croire aux gens que s'ils font assez de bonnes choses pour ce Jésus, ils mériteront le ciel. Alors que le Jésus de la Bible nous fait comprendre que je ne peux rien faire pour plaire à ce Jésus, il a tout accompli pour moi. Et ce que je fais, je ne le fais pas pour mériter mon ciel, mais je le fais pour plaire à mon Jésus de la Bible. Peut-être que depuis ton enfance, tu crois à Jésus, mais que maintenant tu aimerais croire en Jésus. Crois en la lumière qui convainc que sans Jésus, on ne peut pas être pardonné. Et peut-être ce matin, tu es en lui, mais que tu as négligé Jésus en négligeant sa parole. En négligeant sa parole, la lumière diminue d'intensité, les eaux s'embrouillent. Mais aujourd'hui, tu veux te réengager envers sa parole. Parce que sa parole, c'est Jésus, afin que la lumière commence à rejaillir dans ta vie et que les autres puissent voir la joie sur ton visage. Des fois, des gens viennent à l'église, « Tu es de bonne humeur? »« Ouais. » Ben, tu devrais peut-être le dire à ta face, ça n'a pas l'air au courant. Donc, il faut laisser ce Jésus briller en nous afin d'avoir un impact autour de nous. Et ma femme me dit ça souvent. « Danny, souris! » Souris! Et l'autre fois, je l'ai surpris parce que je sors d'un centre d'achat, une madame qui m'arrête. Elle dit, « Vous, monsieur, là, vous avez un beau sourire, gardez-le! » Quand j'ai compté ça, ma femme a pensé que j'étais en train de y en passer une belle, mais c'est la vérité. J'ai dit, je te remercie pour ton conseil parce qu'il est vrai que ce que l'on reflète va attirer les gens ou va les faire détourner. On ne peut pas se dire ambassadeur de Jésus-Christ et toujours avoir la falle à terre. Ça doit paraître quelque part dans notre vie. Et sinon, on a besoin de faire ce qu'on appelle de l'introspection. Se regarder dans le miroir avec honnêteté, puis avoir un petit talk. Vous connaissez un petit talk, un small talk avec nous-mêmes? Seigneur, pardonne-moi. Je t'ai peut-être laissé de côté. J'ai peut-être négligé ma relation avec toi. Puis le parfum de Christ que je suis supposé de répandre autour de moi, il sent plus vraiment bon, là. J'ai besoin de retourner au Jésus de la parole, me rappeler qu'il est eau vive, qu'il est lumière, qu'il est bonté, que malgré mes problèmes, mes maladies, mes difficultés, ma vie n'est pas terminée. Elle est éternelle. Et même si j'ai 80 ans, 85 ans, 88 ans, n'as-tu d'autres? 90 ans. Si je quitte ce corps, j'entre dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Alain?